aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin dans cette révolution, puisque à partir de ce fameux chapitre 10, on avait parlé d'un, entre guillemets, d'un virus qui se propageait à une vitesse folle et que personne n'arrivait à retenir. Et là, six chapitres plus tard, le christianisme va partout, grâce à Paul, donc, qui s'est converti. On sort de Jérusalem, on sort même d'Israël, on commence à aller dans les contrées avoisinantes. Et au fameux chapitre 15, que je devais en fait faire aujourd'hui, mais il y a eu, je me suis un peu trompé, je m'excuse, on arrive au fameux concile de Jérusalem, où déjà j'en avais parlé à l'époque du centenier, puisque c'est là qu'est, en quelque sorte, mis dans les... Je peux fermer, parce qu'il y a un bruit qui est venu. Dans les tables de la nouvelle loi, en quelque sorte, le fait que la foi chrétienne est ouverte à tous, juifs et non-juifs, et c'est l'apôtre Jacques qui donne la clé de cette délibération-là. Et donc, après ce concile de Jérusalem, la porte est encore plus ouverte pour tous les voyageurs, tous les apôtres qui prennent leur bâton de pèlerin pour porter cette foi aux confins de la terre. Et nous arrivons donc au chapitre 16, où c'est le deuxième voyage de Paul. Donc ils s'en vont, ils rencontrent des personnes, ils créent des églises, des églises se forment, des églises qui prennent vraiment vie, qui prennent puissance. Ainsi, il est dit au chapitre 16. Donc, il n'y aura pas de texte écrit, parce qu'en fait, je vais vous le faire par petits morceaux pour raconter l'histoire. Parce que si on vous dit la fin tout de suite, c'est moins drôle. Au chapitre 16, verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Vous vous souvenez, dans les premiers chapitres, avec les apôtres, on disait qu'ils étaient quelques dizaines, puis quelques centaines, et puis ils devenaient quelques milliers à Jérusalem. Et là, on est passé à la vitesse supérieure. C'est plus quelques milliers. Maintenant, dont on parle d'une personne dans une ville, c'est des églises dans des villes qui augmentent et qui se fortifient régulièrement. Donc on est dans une croissance exponentielle de la foi chrétienne. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de deux personnages principaux, le geôlier de la ville de Philippe et Lydie, la marchande de la ville de Thyatire. C'est des destins très particuliers qui nous posent, en fait, ce chapitre 16 nous pose une énorme question. C'est l'histoire justement de notre destinée. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ça nous arrive? Est-ce que ce qui nous arrive est de notre fait ou pas? Quel est notre espace de liberté dans ce que nous vivons sur Terre? Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Est-ce que c'est même décelable? Et c'est cette grande question à laquelle je n'ai pas de réponse franche à vous apporter. J'espère qu'à la fin de ma prise de parole, on y verra peut-être un peu plus clair. Mais c'est une des grandes questions qui est en fait celle de notre liberté d'être humain. À quel moment nous sommes totalement libres d'être ce que nous sommes, d'agir ou de ne pas agir, de croire ou de ne pas croire, et à quel moment Dieu décide les choses pour nous. Et ça, on va pouvoir le voir dans ce chapitre 16 à travers le destin de ces deux personnes, a priori tout à fait banales. Parce que si tout est entre les mains de Dieu, comme on le dit souvent, il a vraiment les mains très très larges, là, parce qu'il a... Depuis plusieurs milliers d'années, il y a beaucoup d'hommes sur Terre qui sont passés, beaucoup de vies personnelles, beaucoup de destins qui se croisent. Il est censé connaître, c'est dit, chacun d'entre nous dès le ventre de notre mère. Et parfois, on a le sentiment que soit ces destins-là sont mal maîtrisés par lui, soit c'est nous qui n'avons pas compris ce qui le souhaitait. Enfin, ça pose une question de l'infiniment grand et de l'infiniment petit qui est vite assez désarçonnante. Donc, il va peut-être falloir essayer de revenir à des idées simples, au sens qu'on puisse les comprendre, nous, avec notre état d'esprit d'humain, et peut-être pas se mettre à la place de Dieu, parce que là, on va... manquer de neurones et de possibilités. Alors, ce chapitre 16, donc, commence, et vous allez voir, c'est un scénario digne de Indiana Jones, hein, c'est comme souvent dans la Bible, et encore plus dans les Actes des Apôtres, c'est vraiment des histoires incroyables qui mériteraient films et romans, mais tout est marqué là, donc c'est beaucoup mieux que ce que pourraient faire de bons cinéastes ou de bons écrivains. Tout commence par une vision. Vous vous souvenez, je vous avais dit il y a quelques semaines que dans les Actes des Apôtres et aussi parfois dans les autres textes de la Bible, Dieu va un peu vite en besogne quand il sent qu'il faut faire quelque chose et il se sert de vision ou de songe, comme j'avais pris l'exemple du 49.3. Voilà, comme ça permet d'aller directement à l'essentiel et de ne pas avoir à discuter et donc de diriger les personnes là où il veut qu'elles soient immédiatement pour son œuvre à lui. Donc, au verset 9 de ce chapitre 16, donc Timothée entre-temps est arrivé, hein, ça y est, Timothée est dans la course, c'est le début du chapitre 16, on nous raconte l'arrivée de Timothée qui va faire équipe avec Paul. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes, donc c'est lui qui parle, aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, 49.3, hop, allez. Donc là, c'est pas n'importe quoi comme vision. C'est quand même entre l'endroit où ils sont et Philippe, qui est donc Philippe, c'est actuellement, il y a encore des ruines, c'est le bas de la Grèce, hein, c'est le sud de la Grèce. Il y a pas mal de mer à franchir, donc il y a environ 400 km. Donc c'est une vision quand même qui donne du boulot. Hein. Ils y vont, et là, ils vont, va commencer une succession de hasards, entre guillemets, de mains de Dieu qui se posent les unes après les autres. Emmanuel en parlait au début de sa présidence, il va y avoir une suite d'actions tout à fait bizarres, qui peuvent même paraître à certains moments contradictoires, ou, je veux dire, très très cher payées, pour amener certaines personnes dans certaines situations. Alors, nous allons voir que, donc, ils ont un songe, ils vont là-bas, mais sans savoir pourquoi ils ont été appelés à Philippe. De là, donc, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Donc ça, c'est une ville qui est sous domination romaine. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc, ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas et disent, ils ont dû entendre parler d'un endroit où on peut prier. Donc, il devait déjà y avoir peut-être des frères qui étaient présents. Nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Vous vous souvenez, on avait parlé aussi des craignants Dieu, des gens qui n'étaient pas juifs mais qui craignaient Dieu et qui pour ça donc avaient le cœur ouvert, propre à recevoir la parole. C'était le cas de notre centenier entre autres. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Voilà, c'est pas mal, une vision, on fait 400 km, on arrive, on suit une rivière, on s'assied, un groupe de femmes. Est-ce que vous connaissez un lieu de prière? Écoutez, ça tombe bien, j'en connais un, mais moi justement, ça m'intéresse ce que vous dites. Est-ce que je peux être chrétienne? Oui, je te baptise, et voilà. Donc voilà, ça c'est du travail bien bien fait. D'ailleurs, ça se termine très bien, puisque si on va au verset 40... Il est marqué, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Voilà, donc on se dit, tout ça pour une personne. Après, que cette personne, on peut imaginer qu'elle va exhorter d'autres frères et sœurs et que ça va être un nouveau foyer qui va partir. Sauf que là, on est passé du verset 13 au verset 40. Et j'ai oublié de vous lire le début du verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Voilà, donc il y a une incise de 27 versets, où manifestement, il y a eu un petit problème en prison. Alors, c'est cette incise qui est très très intéressante. C'est parce que, en fait, à l'intérieur de cette parenthèse, entre le moment où ils rencontrent Lydie et le moment où ils viennent chez elle et ils repartent, il se passe un événement tout à fait particulier. Donc on a d'un côté ce personnage, Lydie, toute simple, les choses se passent normalement, clairement. Il a quand même fallu qu'il se passe beaucoup de choses pour qu'il arrive au bord de cette petite rivière et qu'il s'assoie à cet endroit-là et que cette femme soit là pour recevoir la parole de Dieu. Ok. Soit. Mais lorsque il rencontre Lydie au début, avant qu'ils aillent chez elle, elle nous pressa par ses instances. Verset suivant, comme nous allions au lieu de prière, donc elle a dû leur dire, écoutez, c'est pas le bon endroit cette rivière, on a en effet un lieu de prière, suivez-moi, je vais vous y amener. Une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Donc là, les choses commencent à s'enchaîner. Ils vont faire ce lieu de prière, donc ça dure plusieurs jours, bizarrement, est-ce qu'ils y ont été, ils sont revenus, ils sont partis, ça je ne sais pas. Mais ils sont sur ce chemin-là, et là il y a une femme autour d'eux qui les ennuie, qui dit, oh, c'est les serviteurs de Dieu, etc. Mais cette femme, manifestement, comme ils disent, donc c'est un esprit de python, donc le pythonisme, c'est des gens qui avaient des dons pour deviner, pour prédire l'avenir. Et donc, manifestement, c'était des esprits mauvais. Et là, Paul, moi j'adore ça, Paul fatigué, du genre, écoute, ça suffit, ça fait 3 jours que tu me casses les oreilles. Stop, stop, allez, sors. Parce que, à la limite, c'est même pas pour la libérer elle, c'est pour se libérer lui de cette espèce de pleureuse magnifique autour d'elle qui rameutait du monde, qui faisait un bruit épouvantable. Ça pourrait s'arrêter là. Donc c'est toujours la succession des chaînes de hasard hein, que j'essaie de mettre en place, ou des chaînes du destin. Et ce qui était intéressant de voir dans le chapitre 16, c'est que cette femme, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Incise dans l'incise. Le diable sort, elle ne peut plus être devineresse. Verset 19, la suite, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Arrivé d'un autre personnage, les patrons. Et attends, on avait une servante qui nous ramenait un peu de sous-sous, et là, en lui enlevant son don, tu nous casses le business, là. Donc, vengeance, je porte plainte. Porte plainte. Et ils portent de plainte de quelle manière? Ils les présentèrent aux prêteurs, donc les prêteurs, c'était les magistrats principaux des colonies. Il y en avait à Rome aussi, mais dans les colonies, c'était vraiment un poste extrêmement important, donc de juge. Il leur dit, ces hommes troublent notre ville, ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. On sait à cette époque, évidemment, que Paul est romain, mais il n'en dit rien, il laisse faire le destin. La foule se leva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Donc là, ça va plus loin. Donc dénonciation, accusation, même pas de procès, condamnation, on les torture. Parce que les coups de verge, c'est pas non plus tout à fait agréable à recevoir. Et ensuite, décision suivante. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Arrivé en scène, un autre geôlier. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Alors, donc ce geôlier n'était pas sympathique, hein, n'était pas forcément tendre, il donna un ordre, il est là dans sa ville de Philippe, à milieu de toute cette histoire de christianisme et de foi. Et non seulement il les met en prison, mais il les met à la prison intérieure, donc on peut penser... C'était celle qui était la plus gardée, la plus sécurisée, et en plus il met les fers aux pieds. Et donc voilà nos deux pauvres apôtres, vraiment bien 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 mal barrés, dans les mains de ce geôlier qui arrive comme ça dans l'histoire, après que Paul ait eu sa vision, qu'ils aient traversé les 400 kilomètres, qu'ils se soient promenés un peu par hasard au bord de la rivière, qu'ils ont rencontré des femmes qui étaient là, on ne sait pas pourquoi, c'est que la femme se convertisse, que du coup elle les amène à un lieu de prière. Lieu de prière, ils rencontrent une femme qui devient un peu folle en faisant du bureau tour, donc il libère cette femme du démon. Du coup, les patrons de la femme sont pas contents, les dénoncent au juge, qui les fait arrêter, qui les fait fouetter, qui les met en prison. Et arrive notre geôlier. Alors, là, on va arriver dans une situation qui est exactement la même que dans Acte 12. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas si on avait étudié ce passage-là. À un moment, vous vous souvenez que Pierre était arrêté aussi. Hein ? Donc, je vais juste relire. Il était arrêté par Hérode. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Donc, Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Donc, un cas identique, en prison, et là c'est un ange qui apparaît à Pierre. Dans notre chapitre 16, voici ce qui arrive. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc on est vraiment dans deux situations absolument comparables. Et c'est là que les choses vont diverger. Elles vont diverger de façon curieuse, au sens où ça va nous forcer à nous poser des questions sur qui est responsable de quoi. On revient à Acte 12. Pierre, les portes s'ouvrent, qu'est-ce qu'il fait ? Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et Pierre, après avoir réfléchi, se dirigea vers la maison de Marie, etc. Et là, il retrouve les apôtres. Revenons à Paul. Donc, les portes sont il n'a qu'à sortir. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Ce qui prouve qu'ils ne se sont peut-être pas enfuis. Alors pourquoi veut-il se tuer, ce brave homme ? Ils partent. Revenons à Pierre 12. Acte 12, pardon. Quelques versets plus loin, une fois que la fuite de Pierre est découverte, quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Voilà. Donc Hérode, les Romains, a priori c'est le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que quand tu as la garde d'un prisonnier et que tu le laisses échapper, eh ben voilà, tu es puni de ton manque de professionnalisme et tu es tué. Donc le geôlier se dit « j'ai failli à ma tâche, donc je préfère me suicider moi-même plutôt que de souffrir dans de drôles de sacrifices ». Sauf que, et ça qui est intéressant, Paul cria d'une voix forte « ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». Donc nous ne sommes pas partis. Pierre, lui, il est parti, mais Paul n'est pas parti. Ce qui ne veut pas dire que Pierre était plus lâche que Paul, que Paul est plus courageux que Pierre. Simplement, ça se passe comme ça. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Seigneur au pluriel, c'est-à-dire vous, hein, c'est pas le Seigneur. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Vous voyez qu'à partir d'une même situation, avec deux hommes d'une puissance et d'une foi identiques, enfin, Paul et Pierre ayant chacun leur caractère, d'accord, mais c'est quand même pas n'importe qui. Les deux se retrouvent en prison, et pourtant, il y a deux attitudes différentes lorsque la prison s'ouvre, et ces deux attitudes, pour eux, finalement, ne changent pas grand-chose, mais pour les gens qui étaient autour d'eux, changent complètement leur destin. Il y en a un qui est supplicié et qui meurt, et l'autre qui est sauvé. Alors, est-ce que ça veut dire que Pierre est coupable de la mort du garde ? Est-ce que ça veut dire que Paul est le sauveur de la vie de son geôlier ? on va plus loin. Donc, quelle est la responsabilité personnelle de ces apôtres? Qu'est-ce qui est de leur fait? À quel moment Dieu est-il intervenu? Est-ce que c'est Dieu qui est intervenu ou c'est eux qui ont fait ce choix-là? Est-ce le destin? Est-ce le hasard? Est-ce la main de Dieu? Imaginez ce geôlier, toute la chaîne d'événements pour arriver, un, à ce qu'il soit supplicié parce que Pierre s'enfuit, et l'autre, qu'il soit sauvé parce que Paul reste. Alors ça nous renvoie à nos propres vies. Très souvent, quand on est, par exemple, avec sa femme ou son mari, on dit, mais tu te rends compte, ce qu'il a fallu pour que je te rende compte, il a fallu que tes parents, un jour, là, puis moi, que mes parents, et tout, puis qu'un jour, ils aillent dans cette ville, que moi, je devais aller dans cette ville, mais j'étais dans cette ville, et que tu as fait tomber ton parapluie au moment où il pleuvait, donc j'étais sorti un parapluie que je venais d'acheter, parce que non, j'ai jamais de parapluie, et que paf, et tac, tu as glissé, donc tu es tombé dans mes bras, enfin voilà, et du coup, on se dit, c'est fou quand même. Oui, sauf qu'on a oublié qu'on aurait pu avoir la même suite d'événements contraires et j'aurais pu tomber amoureux d'une autre personne et d'un autre parapluie. Enfin, peut-être pas, mais... Voilà, donc après, on se construit des histoires extraordinaires sur les enchaînements du destin qui font qu'on s'est rencontrés. Moi, là, je suis face à une interrogation, face à un doute, parce que je suis sûr que le geôlier de Pierre n'était pas plus mauvais que le geôlier de Paul. Pourquoi Lydie, elle a eu droit à une conversion hyper facile au bord d'une rivière, et que l'autre, il a fallu qu'il se fasse la terreur de se faire dessus, de se mettre le couteau en disant c'est épouvantable. Enfin, là, il y a une destinée au sens large du thème que je ne maîtrise absolument pas et pour laquelle je n'ai pas de réponse. Je vois juste que c'est écrit comme ça. Donc, il doit y avoir une raison. Alors, j'essaie dans ces cas-là de revenir au maître de tout ça, c'est Jésus. Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ma vie ou dans la vie des autres, je dis, est-ce que c'est arrivé dans la vie de Jésus? Donc, si c'est arrivé dans sa vie, lui, normalement, il va avoir la bonne réponse. Donc, un des éclairages que j'ai pu trouver, c'est quand il est sur la croix, Jésus, avec les deux brigands. Bon, là encore... Remontons au début de l'histoire. La probabilité pour que le brigand Rototo et le brigand Machino se retrouvent ce jour-là sur la croix à côté du Christ, elle est infinitésimale parmi tous les brigands de la terre. Pour être né à cette époque-là, dans ce pays-là, il faut avoir été un brigand. Donc ça veut dire peut-être que les parents ne sont pas occupés d'eux. Si ça... Pour arriver, ping, à ce moment-là, les trois se retrouvent. C'est quand même fou, ça. On peut dire, c'est vraiment pas de chance, c'est comme ça. Mais là, on est vraiment dans une situation, finalement, où chacun a fait de sa vie ce qu'il a pu, ou ce qu'il a voulu, pour en arriver à ce moment-là. Et Jésus est au milieu, lui ayant son propre destin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Donc ça, c'est une réponse quand même qui peut nous aider dans cet entrelac de doutes sur notre liberté, notre destinée. C'est que quels que soient les chemins qu'on va prendre, qui peuvent dépendre de nous pour beaucoup et peut-être moins dépendre de nous parfois, là encore je renvoie, est-ce que c'est Pierre qui décide de fuir ou bien c'est parce que Dieu lui a mis dans son cœur de fuir et Paul a mis, c'est Dieu qui lui a dit de rester ou c'est Paul qui, par sa personnalité, a décidé de rester? Après, vous allez me dire, oui, mais qui a fait la personnalité de Paul? Oui, alors voilà, c'est pareil. Donc, vous voyez, c'est comme quand on essaie de savoir qui a créé l'univers. Et d'accord, c'est Dieu, mais avant Dieu, c'était quoi? Vous voyez, tout de suite, c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit devant lequel on ne peut pas répondre. Donc, il faut essayer de, ce que je vous ai dit au début, de rétrécir la question sur le champ de nos possibles à nous. Et le champ de nos possibles à nous, c'est que quel que soit le pourquoi, le comment, du moment où on est arrivé face à Dieu, là par contre on peut dire oui, on peut dire non. Plus tard, quand on sera près de lui, on comprendra peut-être que depuis le début, pour que j'ai dit oui à ce moment-là, c'est parce que il y a 4500 ans, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière avait permis que de ne pas se faire écraser par les dinosaures, qui du coup a permis de... Et puis là ça nous paraîtra d'une évidence absolue. Tout ce qui aujourd'hui nous paraît d'une absolue... parfois d'une absurdité totale. Je me mets dans les... Imaginons que la famille du geôlier de Pierre rencontre la famille du geôlier de Paul. C'est le même boulot, c'est des collègues, c'est, si ça se trouve, surtout dans le même syndicat. Il y en a un, il s'est fait trucider, et l'autre, il est heureux, tout va bien, là, sa famille, enfin, pour le moment, ben, il y a de quoi pas être content. C'est pas le même traitement, alors que c'est exactement la même histoire. Bon, mais peut-être que, d'en haut, et puis qu'est-ce qu'il nous dit ? Que peut-être le supplicié geôlier, au moment de mourir, il a vu, lui, l'ange arriver, etc., qui a tout libéré. Ça a peut-être été une révélation, peut-être qu'il est mort, plutôt que prévu. Mais sur l'échelle des milliers d'années, quoi, si c'est quelques années de plus ou de moins, c'est pas très très important. Peut-être qu'il a été sauvé par ce qu'il a vu, et puis peut-être que le geôlier de Paul, il fait les choses bien, mais je vous en prie. Peut-être que le geôlier de Paul, lui, on sait pas ce qui s'est passé après. Peut-être qu'il s'est pas si bien comporté. Ça, c'est, encore une fois, la destinée de chacun, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'à un moment ou l'autre, quelle que soit la raison et le pourquoi et le comment on en est arrivé là, on a cette liberté-là, de dire oui ou de dire non. Et je pense que quand on rencontre des gens et qu'on leur parle de Dieu et qu'on essaie d'expliquer les choses, d'expliquer notre foi, ils vont toujours trouver mille bonnes raisons pour dire « Oui, mais moi, avant, tu comprends, j'étais battu, j'étais avec un prêtre pédophile ou je sais pas, on peut inventer. » Ou oui, ok. Pourquoi ça s'est passé le... Ok. À la limite, c'est passé. Plus la peine d'en parler. Mais là, à un moment, on a toujours le moment T, le moment clé où on peut dire oui ou non. Et c'est peut-être là que notre vraie liberté, elle est. C'est peut-être là où le seul moment où notre liberté, elle y est vraiment. Cette fameuse liberté que Dieu laisse à l'homme. C'est de dire oui ou non à ce moment-là. Peut-être que tout le reste est manigancé. D'une façon qu'on n'arrive pas à appréhender parce que c'est trop compliqué pour nous. Et à la limite, c'est peut-être pas très grave. Tant que le moment précis, on peut dire oui, on peut dire non, il est de notre ressort à nous. Et ça me paraît être finalement, à mon niveau, rassurant de pouvoir me dire ça. Et tu vois, et de pouvoir me dire que sur cette croix, au dernier moment, quel que soit le chemin qui a fait que ces deux pauvres hommes se sont trouvés là, ils avaient encore la liberté de dire oui ou de dire non. Alors, je vais quand même terminer cette petite histoire pour savoir ce qui va se passer. Donc, ce qui est amusant, c'est que en fait, ils ont donc dîné chez lui, ça s'est très bien passé. Après, ils sont revenus en prison. Ils ont repris leur place. C'est ce qu'il est dit. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire aux geôliers. Les licteurs, c'est ceux qui précédaient les prêteurs. Ils avaient une espèce de, ils avaient des grandes verges et une hache symbolisée pour montrer que le prêteur avait le pouvoir de frapper et de tuer. Donc c'était un peu les porte-drapeaux. Donc pour dire aux geôliers, relâche ces hommes. Alors ça, c'est quand même incroyable. Ils ont fait tout ça pour se rendre compte finalement au matin qu'ils s'étaient trompés, qu'il fallait pas les mettre en prison. Donc c'est vous dire, là encore, l'enchaînement des situations, elles sont même pas... Si encore, c'est oui, vous avez fait une bêtise, donc vous êtes puni, donc vous rencontrez le geôlier, il y aurait une forme de logique. Mais même pas, puisque les prêteurs se rendent compte qu'ils n'auraient jamais dû ni les frapper ni les mettre en prison, qu'ils feront donc vite les libérer. Donc comme on dit en mathématiques, il y a une loi en mathématiques qui est intéressante, qui dit en mathématiques, à partir du faux, on peut tout démontrer, même le vrai. C'est un peu ce qui se passe là. Je réexpliquerai si vous voulez. Donc, et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche, maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, et là il dit qu'ils sont romains, et que là, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Ça se trouve avec un cadeau souvenir de la ville. Enfin voilà. Donc, tout ce voyage-là, tout ce qui est arrivé aujourd'hui, tout, en plus c'est sur une base d'un horrible quiproquo. Alors, je ne vais pas recommencer. Hein. Lydie, la rivière, le lieu de culte qui n'était pas le bon, la dame qui... Les gars qui perdent leurs sous, donc ils vont porter plainte. On l'arrête, on enchaîne le geôlier. C'est vrai qu'en prison, on fait un tac, tremblement de terre. Il part, oh, parti, quick, non, quick, pas, je reste, je me suis sauvé, c'est merveilleux. Donc je vais partir, non, je pars pas, je me remets dans ma prison. J'attends, vous venez, vous sortez parce qu'on s'est trompé. Non, on sort pas, vous venez. Pardon, excusez-moi. Et repartez, avec un cadeau. Et là, on ravit. Et on arrive au verset 40, quand il fut sorti de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu exhorter les frères, ils partirent. Ils refont les 400 kilomètres, ils reviennent chez eux, et ils continuent leur voyage. Chapitre incroyable, espèce de truc comme ça, qui est en plein milieu, qui raconte une histoire presque sans queue ni tête, qui apporte rien théologiquement. C'est-à-dire que autant l'histoire du centenier, c'est une révolution, là, ça apporte rien. Au contraire, ça crée du doute si on le remet par rapport à Pierre. Et pourtant, c'est là, et ça nous laisse avec... d'ailleurs, quand vous prenez une Bible, c'est à l'intérieur du chapitre, il y a marqué « Conversion de Lydie, conversion du geôlier de Philippe ». Voilà, bon, bah, écoutez, très bien. Ça nous dit quoi? Ça nous dit peut-être ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui. Mais j'en suis pas sûr. Peut-être que ça dit autre chose, sûrement. Mais moi, j'ai pris ça comme... une démonstration de, je dirais, de la vanité de nos destins, de la grande question qui se pose sur nous, sur tout ce qu'on fait, le pourquoi du comment. Soyons modestes par rapport à ça. Essayons, une fois qu'on est dans l'instant présent, de se dire que tout ce qui nous y a amené, finalement, n'est peut-être plus très important. Par contre, il y a des moments présents à vivre absolument, parce qu'il y a peut-être des choix qui doivent être faits à ce moment-là. Et qu'importe si ces choix nous ont été passés en 49.3 ou s'ils sont le fruit de nos petits muscles à nous. À l'arrivée, c'est toujours la même question. Tu crois ou tu crois pas? Tu veux être sauvé ou tu veux pas être sauvé? Et ça, tout le monde peut l'entendre. Tout le monde peut l'écouter. Quelle que soit sa culture, quelle que soit sa naissance, quel que soit son âge. Parce que ça nous remet... Tu es sur le livre, tu n'es pas sur le livre. Voilà, j'espère avoir été à peu près, non pas clair, parce que c'était difficile, mais d'avoir ouvert certaines portes qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et donc, je relivrerai le chapitre 15 du Concile de Jérusalem, que j'ai sauté allègrement, et qui, lui, sera fondé sur des bases théologiques certaines.